Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mercredi. Vous avez sûrement vu passer ces images d'un bison dont la tête est restée coincée dans la voiture d'un visiteur au parc Omega. C'est un parc animalier en Outaouais. C'est évidemment plus de peur que de mal. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, eh ben, il me semble que la dernière fois que je suis allée au parc Omega, les règlements étaient très clairs. Je suis allée vérifier sur le site du parc Omega. Premier règlement sur les consignes de sécurité, n'ouvrez pas complètement vos fenêtres. Deuxième règlement, ne nourrissez pas les bisons. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont laissé leurs fenêtres complètement ouvertes et ils ont nourri le bison. Il y a toujours des gens qui vont voir un règlement et qui vont faire exactement le contraire de ce qu'on leur dit. C'est exactement comme les anti-vaccins. Quand j'ai vu ce qui s'était passé au parc Omega, j'ai poussé un grand et désespéré. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
La semaine dernière, sur les ondes de Cube, je vous avais proposé une entrevue vraiment passionnante avec Mathieu Nadeau-Vallée, le médecin résident des médias sociaux qui vraiment se lève le matin en disant « je vais contrer la désinformation concernant les mesures sanitaires ». Depuis, ben, il est vraiment rendu une méga vedette, interviewé par Pierre Bruneau, une présence à Tout le monde en parle, donc j'avais envie de prendre de ces nouvelles. Mathieu Nadeau-Vallée, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ben moi, ça va très bien. Vous êtes un petit peu pris dans un tourbillon depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Comment vous vivez avec tout ça, avec cette exposition médiatique?
Oui, ben j'ai eu à peu près 10 000 nouveaux abonnés là, sur TikTok. je suis vraiment content. J'ai plus de messages que je peux en répondre.
Oui. Donc, c'est vraiment une popularité assez importante. En même temps, ce qu'on a appris au cours des dernières heures, c'est que votre compte Facebook a été fermé, banni. Là, c'est pas trop clair. Peut-être que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes rendu avec Facebook. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là?
Oui, ben ils m'ont dit que dans 24 heures, ils me reviendraient avec une décision finale. Dans ce temps, il y a quelqu'un de Facebook qui m'a contacté pour me dire que c'était sûrement parce que plusieurs personnes m'avaient signalé et aussi une combinaison avec le fait que le nom que j'avais sur Facebook, c'est un pseudonyme. Donc, Facebook m'a demandé une carte d'identité pour vérifier mon identité. Puis, une solution à ça, ça serait d'aller chercher le petit crochet bleu là, officiel de Facebook.
Mais je reviens dans la première partie de ce que vous nous avez dit, Monsieur Nadeau-Vallée, c'est que la raison pour laquelle Facebook a fermé votre page, même si c'est momentané, c'est parce qu'il y a des gens qui vous avaient signalé. Ça veut dire quoi, des gens qui vous ont signalé?
Ben, c'est-à-dire quand on voit une vidéo ou une publication Facebook, on peut toujours la signaler. Ça veut dire qu'il y a plusieurs motifs de signalement, dont cette personne propage la désinformation, ou encore cette personne fait du harcèlement, ou encore cette personne n'est pas une vraie personne. Donc, il y a plusieurs motifs de signalement. Puis, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait des gens qui s'étaient donné le mot pour tous aller me signaler.
Donc, alors que vous faites de la désinformation, c'est-à-dire que vous donnez la vraie information avec des faits pour déboulonner de la désinformation, vous avez été dénoncé par des gens qui sont manifestement soit anti-vaccins ou anti-mesures sanitaires. Comment vous réagissez quand vous voyez que les gens se sont donné le mot puis se sont mis en meute, en fait, en groupe, pour faire fermer votre compte?
Ben, je m'y attendais. En fait, je l'avais même dit avant de passer à Tout le monde en parle que ça allait arriver. Là. J'avais eu une publication qui avait été justement bannie, puis c'était un article du New England Journal of Medicine, qui est un des plus gros journaux en médecine. Donc, je pense que Facebook a des algorithmes qui fonctionnent pas très bien, puis que c'est pas vraiment vérifié par des humains. Fait que du moment qu'ils obtiennent un certain nombre de signalements, ben ils ferment tout.
C'est quand même assez décourageant, c'est assez ironique. Quand vous avez donné ces entrevues, donc vous êtes d'abord venu ici à Cube, on a fait une entrevue avec vous, ensuite, bon, tout le monde en parle quand même, plus d'un million de personnes, une entrevue aussi avec Pierre Bruno, puis différentes entrevues à différents endroits. Est-ce que ça a un impact? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens, après vous avoir vu à la télé ou entendu à la radio, qui se sont dit, bon, ben moi, je le crois, ce jeune médecin-là, ce jeune résident, et je vais en effet aller me faire vacciner. Est-ce que vous sentez que vous avez créé un mouvement?
Oui, j'ai eu beaucoup de commentaires comme ça depuis mon passage à Tout le monde en parle. Le problème, c'est que j'ai plus accès à lire les commentaires parce que je suis banni de Facebook. Là, on m'a dit que j'en avais des centaines qui m'attendaient. Des messages privés, je veux dire.
Oui. Donc, peut-être que vous avez en effet converti plein de gens. Mais vous n'avez pas accès à vos messages, donc vous ne pouvez pas le savoir. Donc, c'est doublement frustrant, en fait.
Ben oui et non. Là, j'en profite pour prendre une petite pause de Facebook. Et là, en attendant, j'ai encore Twitter puis TikTok. Donc, sur TikTok, je suis rendu à 50 000 abonnés.
Ouais. Alors, si vous étiez, mettons, un influenceur puis que vous vendiez des maillots de bain, on pourrait peut-être vous trouver superficiel de dire « Oh mon Dieu, le nombre d'abonnés est important ». Mais dans ce cas-ci, Monsieur Nadeau-Vallée, vu que l'influence que vous exercez, c'est une question de santé publique, c'est une question, dans certains cas, de vie et de mort, ben c'est important, en effet, que vous ayez beaucoup de gens qui vous suivent ou beaucoup de gens qui réagissent. C'est pour ça que pour vous, c'est important là, qu'il y ait beaucoup de gens qui aient accès à ce que vous avez à dire.
Ben exactement. Puis c'est pour ça que j'ai accepté « Tout le monde en parle ». C'était stressant d'aller là-bas, mais je me suis dit que le but, c'était de diffuser le message, de diffuser la science.
Alors, j'ai vu passer quelque chose de très inquiétant hier. Bon, on savait qu'il y avait des gens, évidemment, qui allaient être très agressifs à votre égard. Puis plus vous parlez à un grand nombre de gens, plus les gens vont être agressifs. Sauf que là, ce que j'ai vu passer hier, c'est des gens qui disent carrément « vous allez finir au bout d'une corde ».
Ah ben en fait, ce message-là s'adressait pas à moi, là, s'adressait à quelqu'un qui me défendait. Mais ça a été rapporté à la Sûreté du Québec, puis ils prennent ça très au sérieux. Déjà, tous les comptes de cette personne-là ont été flagués et bannis par Twitter.
Est-ce que ça vous surprend que des gens soient tellement fâchés contre vous, tellement fâchés contre les mesures sanitaires, qu'ils aillent jusqu'à menacer quelqu'un de la pendre au bout d'une corde? Ça vous surprend, ça?
Ben, je suis pas sûr que ça, c'était une personne qui était tant fâchée. Elle avait plutôt l'air juste perdu puis menacer un petit peu tout le monde au hasard. Là, c'était peut-être quelqu'un qui avait des problématiques de santé mentale.
Oui, mais sans vouloir faire un diagnostic, il reste quand même qu'il y a une grande agressivité. Hein. Il y a vraiment, je pense par exemple aux gens justement qui ont écrit à Facebook pour signaler votre compte, c'est pas si, quand on est dans une perspective de dialogue, de dire bon, on va échanger, puis on va débattre, ben si un des deux dans le débat dit « j'ai envie que tu fermes ta gueule », ben il n'y a pas beaucoup de débats possibles.
Oui, c'est ça, ben exactement, mais généralement ça va pas même plus loin que les insultes. Là, c'est la première fois que je voyais des menaces de mort puis des incitations au suicide. Mais comme j'ai dit, cette personne-là n'est pas vraiment représentative des autres. Là. Elle était pas vraiment anti-vaccin. C'était juste une personne qui commentait un petit peu n'importe quoi partout.
Comment les gens réagissent dans votre entourage médical? Je sais que à l'Université de Montréal, je pense qu'ils ont très fièrement dit bon ben un de nos étudiants là qui est vraiment beaucoup présent dans les médias et tout ça. Mais le reste de la communauté médicale entre guillemets, comment ils voient ça, le fait que vous alliez dans les médias comme ça pour défendre le vaccin entre autres?
Ben, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui m'ont écrit, là, des inhalothérapeutes, des pharmaciens, des infirmières, des médecins, des intensivistes, pour me dire que ce que je faisais était vraiment bien. Puis il y en a qui ont confirmé un petit peu ce que je pensais aussi. Ils m'ont dit, moi j'aimerais ça faire ça, mais j'ai un petit peu peur de m'exposer à la haine puis à tout ça. Donc souvent la question qui se pose, c'est pourquoi on est très peu à être sur les médias sociaux puis à défendre la science puis à défendre la vraie information, mais je pense qu'une partie de la réponse est là.
Ça, c'est drôlement intéressant parce que, justement, il y en a des médecins. Tu sais, il y a docteur Vadeboncœur, il y a docteur Daïn, il y a docteur Marquis. Il y en a des médecins qui, depuis les tout débuts de la pandémie, sont très, très, très présents dans les médias. Je pense même à Nima Machouf, enfin, docteur Kadir. Il y a plein de gens qui font ça, mais le prix à payer, c'est en effet d'être l'objet de haine. Qu'est-ce qui fait que vous, vous allez continuer malgré tout, Monsieur Nadeau-Vallée?
Ben, je suis pas sûr que je vais continuer, là. Je vais.
Mon but, c'est clair.
Mon but, c'est de faire ça essentiellement en septembre et en octobre, là, parce que, comme j'ai dit, je pense qu'en ce moment, c'est exactement le bon timing pour aller se faire vacciner. Puis je pense que les gens ont droit à prendre une décision éclairée. Mais après ça, une fois que toutes les informations sont données, ben là, c'est aux gens de faire leur choix. Puis voilà, je vais peut-être continuer de faire une capsule de temps en temps. Mais voilà, mon but, c'est vraiment de donner un coup d'information en ce moment. Comme ça, tout le monde va pouvoir dire, ben, au moins, j'ai eu ma chance de prendre une décision éclairée. Puis il y en a toujours qui vont nier la science, nier la vérité. Ça, on ne se le cachera pas.
Quel genre de médecin vous avez envie d'être quand vous allez avoir fini votre spécialisation, votre résidence? Quel genre de rôle vous aimeriez jouer dans la société, Monsieur Nadeau-Vallée? Après ce que vous avez vu là de la pandémie, de la façon dont on a traité ça?
Ben moi, mon objectif depuis très longtemps, c'est d'être un clinicien chercheur. C'est pour ça que je suis allé chercher le double doctorat. Je veux contribuer au progrès de la science. Je veux faire de l'anesthésie, puis participer à des études cliniques pour le progrès de la pratique de l'anesthésie dans le monde.
C'est bien répondu. Donc, vos deux diplômes, évidemment, c'est pharmacologie et médecine. Ben, écoutez, on aimerait bien vous cloner, Monsieur Nadeau-Vallée. On aimerait ça en avoir beaucoup des Mathieu comme vous pour justement contrer la désinformation. Donc, lâchez pas. Et ben, on espère que les gens de Facebook vont comprendre qu'on a besoin de plus de pages comme la vôtre et qu'il faut pas les fermer. Au contraire, il faut les ouvrir. Et la libre circulation des idées. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
Merci beaucoup, bye-bye.
Mathieu Nadeau-Vallée, donc, ben, vous le connaissez sous son surnom de Doc TikTok, mais il insiste tout le temps pour le dire, je suis médecin résident, donc soyons plus précis, le médecin résident des médias sociaux qui vient de se faire fermer le clapet quand même par Facebook, donc espérons que la situation va se résorber.
Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir, avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
Ces jours-ci, en France, il y a un procès extrêmement important qui se déroule, c'est le procès des événements de novembre 2015, donc vous vous en souvenez, évidemment, l'attentat islamiste au Bataclan, dans la salle de spectacle, mais aussi à la terrasse des cafés et des restaurants, et si vous suivez ça sur les médias sociaux, c'est terrifiant, et moi ça me terrifie, et ça terrifie aussi Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Sophie, c'est vraiment épouvantable de lire à chaque jour les témoignages des survivants de cet attentat et moi je ne peux pas décrocher, à chaque jour je vais lire, à chaque jour j'ai quand on comprend tellement c'est quoi un choc post-traumatique, on comprend tellement ça veut dire quoi être survivant. Il y a des témoignages qui, en fait, tous les témoignages, c'est l'horreur, hein, ce qu'ils ont vécu. On peut imaginer, là, 1500 personnes dans une salle de spectacle et tout à coup, les terroristes arrivent, se mettent à tirer partout. Ils étaient pris, là, vraiment dans la salle de spectacle. Il y en a évidemment plusieurs qui ont réussi à sortir, mais à quel prix? Ils sont sortis de cette salle-là. Et à quel prix ils en sont sortis vivants? Et c'est là que c'est l'horreur. Écoute, il y en a une qui témoignait récemment. Elle s'appelle Maureen. Puis elle disait, le plus dur, c'est de faire le deuil de soi. Puis elle disait, avec cet événement-là, j'ai l'impression d'en avoir pris à perpétuité. Parce que tu ne t'en sors jamais des images de gens qui meurent devant toi, qui se font tirer. Et ils ont une culpabilité aussi d'avoir quitté la salle. Parce que s'ils sont survivants, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui ont joué, c'est pas un bon terme ici, il y en a qui ont décidé de faire les morts. Donc, ils étaient en dessous d'un paquet de gens qui mouraient sur eux. On peut imaginer quand tu ressors de ça, dans quel état tu es. Il y en a qui ont décidé, il y avait des opportunités de fuir, ils l'ont fait en laissant des gens derrière eux, des regards qu'ils croisaient de gens qui les suppliaient de les aider. Ils ont fait le choix de sortir parce qu'ils savaient de toute façon qu'ils n'en sortiraient pas vivants, c'est resté. Mais ça suit ces gens-là. Il y en a qui ont des problèmes d'alcool. Il y en a un entrepreneur qui a tout perdu parce qu'il dit on ne peut pas survivre normalement. On est en survie après avoir vécu ça. Donc, on se rend compte à quel point il y a des gens qui sont décédés et il y a des gens pour qui la vie devient extrêmement difficile. C'est très, très dur. Je ne sais pas si tu as le même feeling que moi, Sophie.
Totalement. Écoute, moi, je veux rendre hommage aussi, bien sûr, aux survivants. Et c'est important d'avoir des yeux et des oreilles dans ces procès-là. Et je suis le compte de, écoute, peut-être 6 ou 7 journalistes différents qui vraiment, en direct, là, au fur et à mesure que ça se passe, transcrivent ça, mettent ça sur Twitter ou sur Facebook. On a vraiment l'impression d'être dans la salle de procès avec eux. Et ils nous décrivent aussi les réactions physiques que des différents témoins, des différents survivants. Et j'ai vraiment accroché à la même chose que toi, c'est le sentiment de culpabilité. Tu dis, ben comment ça se fait que ces gens-là se sentent coupables? Dans certains cas, ils se sentent coupables parce que, par exemple, leur blonde ou un membre de leur famille était là, ils se sont précipités pour aider en priorité leurs proches versus quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Et ils restent avec cette culpabilité-là en disant, mais pourquoi je me suis occupé de mon meilleur ami au lieu de m'occuper de quelqu'un qui était peut-être beaucoup plus blessé ou beaucoup plus... Et c'est là qu'on se rend compte que quand on lit, il y a eu un attentat à tel endroit où il y a une bombe qui a explosé, on se dit, bon, ben, il y a eu 23 morts. Puis là, après ça, quand on est rendu aux blessés, on s'intéresse pas vraiment aux blessés.
Ouais,
mais les blessés, là, c'est des blessures majeures. Et c'est surtout, c'est pas juste des blessures physiques, c'est des blessures psychologiques absolument épouvantables. Et c'est, on leur doit ça aux survivants d'écouter leurs témoignages. Parce que on a trop souvent tendance à dire « Ah, oh, ben là, t'es pas mort. Reviens-en, retousse-toi les manches, t'es pas mort. Comme toi, chanceux. » Ben, dans certains cas, c'est peut-être pire, là. C'est important, Marie-Claude, ce qu'on fait là. C'est important de mettre des mots. Tu sais, parce que, encore une fois, je reviens à ça, quand tu lis dans le journal, quand tu regardes la télé, puis on dit « Bon, il y a eu un attentat à tel endroit. » Jamais on va rentrer dans ces détails-là. Mais on le doit aux victimes, on le doit aux survivants, on le doit aussi à la mémoire des gens qui sont morts, de décrire exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est trop simple de dire « Ah, il y a eu un attentat au Bataclan, point. » Il y a eu tant de morts.
On veut plus en entendre parler, tu sais, non.
Exactement. Exactement. Puis on veut surtout pas avoir les détails parce qu'on n'a pas envie, nous, de se faire des images dans notre tête. Mais on leur doit ça. Je pense que c'est un respect. Et aussi parce que, c'est particulièrement horrifique, là. Je veux dire, il y a vraiment certains de ces djihadistes-là qui, ont été particulièrement sadiques. Puis là, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais ils ont vraiment joué avec les nerfs des gens. Ils ont pas juste tiré dans le tas là. Je veux dire, c'est vraiment, en tout cas, bref.
Je veux pas trop rentrer dans... Mais ce procès-là va se terminer en mai. Donc, il y a encore beaucoup de témoignages. Là. Pour les gens qui veulent le suivre, c'est comme tu disais dès le départ, il est facile à suivre. Ce procès-là, facile à trouver, mais pas facile sur le plan psychologique à suivre, par contre, parce que c'est vraiment, comme tu dis, beaucoup de détails. Puis moi, ça me ramenait à Polytechnique. Tu sais, il y en a eu aussi des attentats au Québec. Et je me souviens quand Karine Vanasse disait qu'elle voulait faire un film sur Polytechnique. Moi, dès le départ, je ne comprenais pas. Et finalement, quand on a vu le film, j'ai tout compris. Tu sais, je me disais, c'est pas en disant non, c'est trop lourd, on veut rien savoir. Non, un instant, il y a des drames qui se passent et au niveau de la société, on doit y faire face. Et tu sais, moi, j'ai interviewé, j'imagine toi aussi, souvent des victimes de Polytechnique.
Absolument.
Des filles qui étaient là et c'est des témoignages bouleversants. Et à chaque fois qu'elles le racontent, c'est un peu comme si elles l'avaient vécu la veille. Donc, c'est important d'entendre, c'est important de les soutenir, sont évidemment ceux, j'imagine qu'il y a des membres, des familles, des gens qui témoignent présentement à Paris qui ne comprenaient pas cette souffrance-là et peut-être qu'ils ont encore plus de support de leur entourage, même si ça fait 6 ans, le temps, il n'y a pas de prescription de temps dans ces cas-là.
C'est très bien dit. Écoute, Marie-Claude, cet été, je suis partie un mois avec mon mari et mon fils, on est allé à Paris, on a passé un mois à Paris. Puis on se promenait tout le temps dans les rues, tu sais, au hasard de nos promenades. Puis à un moment donné, on marche dans la rue, puis je me retourne et je m'arrête. Et Richard voit dans mon visage qu'il y a quelque chose qui va pas, je suis au bord des larmes. Là, il lève les yeux, on était devant le Bataclan. Puis on a expliqué à mon fils ce qui s'était passé et tout ça. Et de l'autre côté de la rue, de la salle du Bataclan, il y a un petit parc avec des bancs. Et à côté de ces bancs-là, parmi les petits arbres, parmi les fleurs, parmi le gazon, il y a une pierre en hommage à toutes les victimes. Puis écoute, il y a des fleurs, il y a des gens qui étaient venus. Puis écoute, c'était il y a 6 ans, là. Et encore une fois, il y a encore des gens qui viennent porter des fleurs. L'important de se rappeler pour que au moins ces gens-là ne soient pas morts en vain, que ça nous conscientise à certains problèmes de société, à certains problèmes de radicalisation, c'est important. En tout cas, si vous allez à Paris, oui. Allez vous recueillir devant le Bataclan, vraiment, c'est un événement novembre 2015 qu'on est pas prêt d'oublier. Écoute, Marie-Claude, on est assez sombre aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Tu veux me parler aussi des familles d'accueil, parce que tu as eu une rencontre marquante avec Nancy Audet. Quelle femme formidable, hein?
Quelle femme formidable, et moi j'ai envie de parler justement du côté lumineux des familles d'accueil, parce que ce qu'on voit, tu sais, quand on entend parler malheureusement des familles d'accueil, c'est souvent parce qu'il y a eu un drame, parce qu'il y a eu un abus sexuel. Mais il reste que c'est très rare que ça arrive dans les familles d'accueil, sauf que quand ça arrive, évidemment, c'est dénoncé avec raison parce que ce sont des enfants qui sont mineurs, qui n'ont pas de défense, qu'on place là, ils n'ont pas un mot à dire. Alors, c'est normal qu'on dénonce. Mais par contre, Nancy Audet arrive avec un documentaire où on met en lumière... C'est pas flamboyant, c'est pas nécessairement tout beau tous les jours, mais quand même, c'est elle là, c'est ce qui l'a sauvée dans sa vie, c'est d'avoir été en famille d'accueil. Donc une famille d'accueil, c'est aussi un lieu où on peut changer la vie d'un enfant. Et on a tellement besoin, Sophie, des maisons d'aide, des familles d'accueil, parce que c'est vraiment un filet de sécurité qui empêche les enfants d'être seuls. Tu sais, je veux dire, et Nancy Audet racontait à l'émission que j'ai fait là-dessus. Elle raconte, tu sais, elle dit, faut penser au féminicide, là. Elle dit, moi, j'ai une amie qui est famille d'accueil, puis un enfant qui est arrivé en pleine nuit parce que sa mère venait d'être assassinée, là. Alors, cet enfant-là n'a pas de... Tu comprends, il est dans la maison, il n'y a pas de lieu pour aller porter. Alors, la famille d'accueil, parce qu'il y a des familles d'accueil d'urgence, et des placements d'urgence. Alors, c'est arrivé en pleine nuit. Alors, tu peux imaginer le rôle qu'ont ces gens-là quand un enfant comme ça arrive. Il y en a une autre qui me racontait, qui était avec nous, Marie-Pierre, qui a plusieurs enfants en famille d'accueil, elle et sa conjointe en Beauce. Puis elle racontait, elle dit, à un moment donné, on m'a appelé, j'ai un enfant à aller te porter. Elle dit, on l'a couché dans un lit. Puis là, t'es là un instant, est-ce que je peux avoir son nom, son âge, est-ce qu'elle a des allergies alimentaires? Imagine, là, elle dit, moi, j'ai pas dormi de la nuit parce que le lendemain matin, là, la petite, elle laisse réveiller. Qu'est-ce que je vais dire? T'es plus dans ta famille. Alors, tu sais, il y a toutes sortes d'histoires, mais c'est des gens, moi, je voulais souligner la vocation.
Oui, c'est vraiment, c'est bien dit. C'est vraiment, ça prend une vocation, là, tu sais, parce que, en plus, dans cette docu-réalité, donc, être famille d'accueil, il y a une famille, je pense, ils ont 10 enfants, ou, enfin, ils sont, il y a vraiment une grosse famille d'accueil. Tu dis, toi, t'en as plusieurs enfants, moi, j'en ai juste un.
Moi, j'avais atteint ma capacité, là, par exemple. Là, je te dirais que, à 10, mais c'est une organisation incroyable, là, tu sais. Puis moi, je leur disais, qu'est-ce que vous dites aux gens, ceux qui disent que vous faites ça pour l'argent? Puis, écoute, il n'y a même pas personne qui a comme voulu répondre en voulant dire, garde, là, qu'est-ce que tu veux? Et la présidente Geneviève Rioux, là, du regroupement des familles d'accueil, a dit, écoute, on a tellement de paperasse à remplir puis de comptes à rendre que finalement, on est payé pour ça. On n'est pas payé pour être avec les enfants. Mais tu sais, ce qu'elle voulait dire, c'est, on peut pas faire ça pour l'argent. Écoute, c'est bien trop prenant. C'est normal qu'ils soient rémunérés. Écoute, ils s'occupent d'enfants, de parents qui sont inadéquats, des fois à un moment précis de leur vie et des fois pour le reste. Tu sais, il y a des enfants qui vont être en placement jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais c'est, écoute, là, des fois, ils en adoptent aussi des enfants qui sont placés. C'est souvent ce qu'ils souhaitent. Mais Marie-Pierre me racontait aussi, à un moment donné, elle a eu un enfant à quelques jours de vie jusqu'à l'âge de 2 ans. À 2 ans, le père a demandé à nouveau de reprendre son enfant et la petite
déchirant.
Est partie. Et elle dit, ce qui manque, on n'a pas de soutien. Elle dit, moi, là, j'étais dans un deuil. Elle dit, on venait de manger un enfant. Imagine, tu peux pas ne pas t'attacher. Tu peux pas dire à quelqu'un, non, mais vous les gardez, mais on peut venir les enlever. Attachez-vous pas. C'est impossible. Premièrement, l'enfant a besoin qu'on s'attache à lui. L'enfant a besoin de s'attacher aussi, a besoin de se sentir en sécurité, a besoin de se sentir aimé. Alors, c'est des témoignages qui sont bouleversants. Moi, j'ai juste vu les 2 premiers épisodes parce que ça va être disponible sur Moi et compagnie, je pense, autour du 27 octobre. J'ai vu les 2 premiers épisodes et... j'ai pleuré, je pense, 3 fois pendant que je regardais ça parce qu'il y a des moments touchants. Et tu sais quoi? Il y a un jeune qui dit, c'est un ado, il dit, moi, j'avais honte d'être dans une famille d'accueil.
Ah oui!
Et même Nancy Audet racontait à l'émission, elle dit, écoute, tu fais rire de toi, tu sais, parce que t'es dans une famille d'accueil.
Quand tu dis ça à l'école,
ouais, c'est comme, regarde, toi, t'es habillé n'importe quand, toi, t'es pas comme les autres, tu sais, toi, t'as pas vraiment de parents, tu sais. Et cet enfant-là, cet ado-là, dit, moi, j'avais honte. Puis il dit, depuis que je suis dans ma nouvelle famille d'accueil, je suis fière. Parce que
c'est
vraiment
magnifique.
Écoute, ça fait du bien d'entendre ça. Puis je pense que on doit mettre en lumière ces familles d'accueil qui remplissent cette vocation-là avec aplomb, avec détermination, et c'est un don de soi. Puis oui, il y en a pour qui c'est plus difficile, les familles d'accueil, mais on peut-tu, de temps en temps, parler de ce qui va bien aussi. Et ils ont des revendications.
Puis les remercier, aussi pour leur générosité.
Quoi, je veux juste
rapidement.
Terminer. Vite. Moi, là, quand j'ai eu 3 enfants, je me disais, si on décède les 2 parents en même temps, peut-être que nos enfants vont se retrouver en famille d'accueil. On n'est jamais à l'abri de
c'est
ça.
C'est vrai.
Peu importe qui on est. Alors, c'est juste ça que je voulais dire. Bravo, chapeau à ces gens qui se portent volontaires pour prendre en charge les enfants des autres.
Oui, nos enfants, finalement, au
nos
final.
Enfants.
Écoute,
exactement.
Donc, cette docu-réalité, donc, animée par Nancy Audet, qui est absolument formidable. D'ailleurs, je vous recommande son livre. Ça va être diffusé à la chaîne Moi et compagnie le 27 octobre. Merci beaucoup, Marie-Claude.
Merci.
Peut-être un sujet plus léger demain.
Oui,
on verra.
Oui, demain.
Mais ça en prend.
OK. Merci.
Ça en prend.
Bye.
Merci. Bye.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Vous connaissez peut-être l'humoriste américain Dave Chappelle. Il est au cœur d'une controverse. Il y a un spécial d'une heure de Dave Chappelle diffusé sur Netflix qui fait hurler certains militants transgenres qui accusent Dave Chappelle d'être transphobe parce qu'à un moment donné dans son spectacle, il dit « Tenez-vous bien ». Tous les gens qui sont sur Terre, tous les êtres humains sur Terre sont nés en passant à travers les cuisses d'une femme. Le genre est une réalité. Il est dans l'eau chaude à cause de ça. J'avais envie d'en parler avec un humoriste québécois pour savoir est-ce que c'est rendu qu'on peut plus rien dire, puis surtout un humoriste québécois dont une production est disponible sur Netflix. Et bien, j'ai pensé évidemment à Martin Petit parce que la version américaine des Pêcheurs est disponible sur Netflix. Martin Petit est au bout de la ligne. Bonjour Martin.
Salut Sophie!
Quand t'as vu cette controverse-là autour de Dave Chappelle, quelle fut ta réaction? T'as assez parti à rire!
Ben, faut dire, ben, si, en fait, si les gens ne connaissent pas Dave Chappelle, c'est une longue histoire, parce que Dave Chappelle fait des jokes, pas sur les trans, mais il fait des jokes sur ce concept de société-là. Une de ses bonnes réflexions, parce que c'est un gars qui mesure la progression des acquis des Américains noirs dans la société américaine, c'est son cheval de bataille, autant que la souveraineté va être le cheval de bataille de Mathieu Bock-Côté. Donc, lui, c'est ça, son grand thème, c'est l'évolution de la reconnaissance de l'égalité des Noirs aux États-Unis. Donc, et lui, il s'amuse du fait, entre autres, que les femmes trans aux États-Unis ont une reconnaissance hyper rapide du fait qu'elles sont blanches puis qui ont acquis en un an et demi une reconnaissance sociale que les Noirs américains travaillent depuis 100 ans. Fait que c'est pas un imbécile Dave Chappelle qui dit n'importe quoi. Tu sais, il fait des comparatifs, il fait des comparaisons, puis son dernier show est très très bon.
Et il très drôle.
De ça. Il parle surtout, puis c'est très touchant en fait, parce que en fait c'est ça. C'est très touchant parce qu'il raconte l'amitié qui s'est tissée entre lui puis une humoriste trans qui venait le voir à tous ses spectacles, Daphné, et il raconte le fait que à travers l'humour, leur amour de l'humour, ils se sont mis à repousser un petit peu les barrières des jokes que tu peux faire entre quelqu'un qui est pas trans et quelqu'un qui est trans. Donc, l'amitié permet de se faire des farces quand tu te fais confiance parce que tu comprends les intentions qui sont pas méchantes. Il raconte cette amitié-là, puis il raconte que cette trans-là, Daphné l'a défendu sur Twitter à un moment donné, puis elle s'est fait ramasser par des militants trans, puis quelques jours après, elle s'est suicidée, et sans dire que, parce que personne ne peut le savoir, que c'est à cause de ça, ou c'est à cause d'un mal-être qu'elle avait depuis longtemps, évidemment, mais comme il dit, ça n'a pas dû aider. Bref, il fait un hommage au parcours de cette femme-là, ouais. Et c'est très touchant. Puis, tu sais, quand t'as vraiment une cause à cœur, Dave Chappelle, c'est le Yvon Deschamps moral. Tu sais, si on veut avoir un équivalent québécois, tu sais, c'est la boussole morale des États-Unis, Dave Chappelle. Quand Dave Chappelle se positionne, Dave Chappelle parle de ton sujet à toi, là. C'est l'équivalent que ton sujet a une pub de 25 minutes pendant le Super Bowl. Fait que quand Dave Chappelle consacre...
C'est bon.
Ouais. Quand Dave Chappelle consacre à ton sujet préféré la moitié de son spectacle qui est vu par tout ce qui a une tête d'humour puis qui est comme un influenceur social dans la société américaine, ça fait un devoir de regarder Dave Chappelle, tu dois être juste content parce que tu sais que quand lui en parle, puis en parle bien, ça fait avancer ta cause. Là, en ce moment... Les 3-4 militants qui veulent, comme tu dis, rester militants, puis camper sur l'opposition, là, en ce moment, sont carrément en train de tirer dans leur but, sont en train d'être contre-productifs pour leur propre cause, Puis ils font juste souligner le fait que dans toutes les causes du monde, ben les militants les militants qui réfléchissent pas, qui sont trop hargneux, puis trop agressifs, finissent par nuire à leur propre cause.
Puis ben, c'est très bien répondu, parce que tu fais la différence entre la communauté transgenre et des militants vraiment radicaux, et c'est exactement la nuance que lui fait. Donc, on est d'accord là-dessus. Écoute, je ne pouvais pas t'avoir au bout de la ligne, Martin, sans te parler de, toi, une initiative qui est vraiment rigolote et qui fonctionne super bien sur YouTube. C'est un journal de la pandémie. On va en écouter un petit extrait.
Il y a du monde qui sont contre le passeport, font comme « ça brime ma liberté ». Non, ça te donne des choix. Tu peux venir ici, au bordel, avoir du fun, ou aller marcher dehors avec Éric Jem. T'as... Oui! C'est deux shows d'humour complètement différents, mais... T'as le choix.
Alors, ça marche bien? Tu te fais pas d'amis auprès des anti-vaccins et des anti-mesures sanitaires et des amis avec Éric Jem non plus?
Non, effectivement, puis je reçois des commentaires qui me font toujours rire. Moi, j'ai une relation très, très particulière, je pense, différente, en tout cas, de certains artistes par rapport aux commentaires négatifs, enflammés, que des gens qui sont pas d'accord avec une joke. Ça me fait tellement sincèrement rire, Sophie, là, quand quelqu'un m'écrit « En tout cas, tu dois sucer la graine à François Legault », puis je suis là, mais mon Dieu, c'est vulgaire, c'est épais, je peux pas croire que quelqu'un écrit ça, puis ça me fait sincèrement rire, fait que j'en ai, évidemment, la majorité des gens rient, puis... mais j'en ai eu un bon en fin de semaine qui m'a fait du bien, c'est-à-dire qu'on peut imaginer toujours les militants comme une frange pas parlable de la société dans un sujet donné. C'est toujours ça, un militant. Un militant, si tu dis, il est pas parlable, dès que t'embarques dans son thème, si tu l'abordes pas comme lui ou elle le veut, c'est fini. T'sais? Puis les complotistes, c'est pareil, parce que tu dis, ils n'entendent pas la raison. Ou ils n'entendent pas, on peut pas avoir une discussion, ils n'entendent pas la nôtre, puis ils nous accusent de pas entendre la leur. Puis tu vois, il y a un gars qui m'a écrit en fin de semaine, je trouvais vraiment ça cute. Il dit « Hey, c'est vraiment drôle, j'ai ri tout le long, puis by the way, je suis un complotiste, puis je suis un anti-vaccin, bravo. » Alors que mon 15 minutes, tu sais, je dis pas que ces gens-là sont des imbéciles du tout, mais tu sais, je donne moi mon opinion, puis je compte ça en dérision. Puis là, lui, il dit « Gars, je suis zéro d'accord avec le fond de l'histoire, mais ce qu'il me dit, c'est que mes jokes sont assez bien faites qu'il a été capable de les trouver drôles, mais c'est surtout que du moment que t'en ris, il y a une brèche. Quand tu ris toi-même, c'est qu'il y a une brèche en dedans de lui qui accepte la proposition que moi, je suis capable d'avoir du fun avec une position contraire à la sienne. Puis ça, juste ça... Ça me donne beaucoup d'espoir sur la réconciliation de tout le monde.
Quand tout ça sera fini. Écoute, ça a été très bref, mais très intéressant. Merci beaucoup, Martin. Bon, on va continuer à suivre ton journal de la pandémie. On peut retrouver ça, évidemment, sur YouTube. Merci beaucoup, Martin, puis on se voit à la prochaine chicane.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Le 30 septembre dernier, les policiers sont intervenus dans un club libertin, un club échangiste, donc le club L'Orage. Pourquoi? Ben parce que les policiers considéraient que les mesures sanitaires n'avaient pas été respectées. Les gens qui dansaient sans masque, le quart de la clientèle qui était en train de s'amuser, entre guillemets. Quand j'avais lu cette histoire-là dans les journaux, je me disais, ben c'est sûr, c'est pas évident, mais un club échangiste, mesures sanitaires, il me semble, ça va pas ensemble. Donc, j'avais envie d'avoir des nouvelles de ce qui se passe au club libertin L'Orage. Donc, j'ai au bout de la ligne le propriétaire de ce club, il s'appelle Jean-Paul Labaye. Bonjour, monsieur, comment allez-vous?
Oui, bonjour, ça va très bien, et vous?
Ben, moi, ça va très bien. Vous, comment ça va depuis le 30 septembre, depuis cette descente des policiers?
Nous, ça va déjà, c'était pas une descente, c'était une visite.
D'accord.
Ils sont venus à deux. Ils sont venus à deux constater, effectivement, c'est vrai qu'il y avait eu, il y avait eu un peu de débordement. Quand on parle de tout le monde danser et tout, bon, cela dit, il y avait quoi? Il y avait 80 personnes dans la place. La moitié était dans la partie bar et la moitié peut-être dansait. Donc, ça faisait une dizaine de personnes qui dansaient sur une musique qui était malgré tout pas plus forte que ça. Et effectivement, une moitié du monde qui s'allumait, qui s'amusait au deuxième étage, là où ont lieu les actes sexuels.
D'accord. Alors, moi, dès le départ, il faut que vous m'expliquiez quelque chose. Alors, je vous le dis, moi, personnellement, je n'ai aucun problème à le dire, j'ai jamais mis les pieds dans un club libertin, mais vous venez de le dire, c'est quand même un lieu où les gens vont pour avoir des relations sexuelles. Donc, comment on peut concilier ça? Oui, s'ils le veulent, bien sûr. On comprend, entre adultes consentants, il peut y en avoir qui se font simplement regarder ou simplement prendre un verre. On comprend le principe. Mais la partie où on a des relations sexuelles, comment on peut réconcilier ça avec des mesures sanitaires qui nous disent il faut maintenir un mètre de distance, porter le masque, se laver les mains et tout ça? Comment ça fonctionne concrètement, là?
Ça fonctionne donc effectivement encore plus en tant que pandémie. On a à peu près la moitié, si ce n'est que les trois quarts du monde, qui viennent pour rencontrer des gens qui ont le même intérêt qu'eux, pour venir boire un verre, pour venir discuter, et une autre partie qui, quoi qu'il arrive, vont s'amuser. Mais ce sont des gens qui se sont amusés la veille chez eux, qui vont s'amuser demain à l'hôtel. Ce sont des gens qui se connaissent déjà. Alors, ceux qui connaissent personne, ben, restent au club, discutent, rencontrent du monde. Et ceux qui veulent s'amuser, s'amusent. Ce sont des choses qu'ils font déjà, dans tous les cas.
D'accord. Donc, quand on est échangiste, c'est ça qu'on souhaite, c'est avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui est pas notre conjoint habituel. Donc, vous dites qu'il le fasse à l'hôtel ou qu'il le fasse chez moi, ils vont le faire de toute façon, donc aussi bien qu'il le fasse chez nous.
Ben, si on veut pousser ça comme ça, effectivement, chez nous, ben, on a demandé les doubles vaccins, maintenant on demande les passeports. On a quand même une certaine surveillance où on peut dire, ben non, là maintenant, mets ton masque et tout. À la maison, il y a rien de toutes ces sécurités-là. Donc, je pourrais presque vous dire qu'effectivement, c'est beaucoup plus sécuritaire, un peu comme tout, là, dans la mesure où il y a un minimum de contrôle, ben ça devient plus sécuritaire.
Ouais. Donc, pour rentrer au club L'Orage, il faut montrer son passeport sanitaire. Vous ne laissez rentrer personne qui n'est pas doublement vacciné.
Exactement.
Et
exactement,
après...
et on a... Pardon, oui.
Non, allez-y.
On a respecté depuis le début. Nous, à L'Orage, on a fermé une semaine avant que l'ordre de fermer soit donné, parce que on sentait là, que c'était une histoire qui allait mal tourner. Donc, on a fermé plus tôt. On a respecté tout le long, toute l'année où il fallait être fermé. Quand on a réouvert, ben, on a réouvert avec les exigences, à savoir effectivement le masque, le 50% de la capacité. Et petit à petit, on nous promet des choses qui n'arrivent pas, puis qui, au bout d'un moment, mélangés à d'autres choses qu'on voit, je vais pas reprendre le cliché, mais oui, quand même, de ce qui s'est passé au Centre Bell cette semaine, c'est que quand on se fait dire pour nous, pour 60 personnes ou pour 40 persones, qu'il y a très gros danger, je pense que le lendemain de ça, voir les images du Centre Bell, c'est très fâchant, c'est très... je trouve que c'est de la provocation. Parce que les gens qui ont donné l'accord pour qu'il y ait ces shows au Centre Bell savaient très bien, en donnant l'accord, qu'il serait impossible de respecter toutes les consignes, le masque, la distanciation. Au moment de prendre cette décision-là, ils savaient que ce serait impossible. Et en même temps, ils font des visites de bars où il y a 60-70 personnes. Alors c'est frustrant, on peut me dire, oui, mais à L'Orage, il y a plus de risques. Non, je vois pas où il y a plus de risques.
Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Vous, vous êtes à petite échelle, vous êtes peu nombreux à fréquenter votre commerce, et les policiers viennent vous faire des visites pour vous rappeler il faut porter le masque, il faut faire ci, il faut faire ça. Et pendant ce temps-là, au Centre Bell, en waydon, le party est pogné, pas de masque, les gens collés les uns sur les autres. Il y a comme un deux poids, deux mesures.
Tout à fait. Tout à fait, et qui est très frustrant. Je suis persuadé que les policiers sont frustrés aussi. Ceux qui sont venus faire leur tour à l'orage n'étaient pas fiers de venir faire leur tour à l'orage. Eux aussi ont des consignes différentes suivant que ça vient de Pierre ou de Paul ou de Jacques. Donc eux aussi ont une job pas facile. Alors j'imagine que quand ils viennent nous voir, puis qu'ils nous font la morale et tout ça, puis que le lendemain, on apprend les histoires du Centre Bell, ben eux aussi doivent être découragés.
Ouais. En même temps, si je peux me permettre de faire l'avocat du diable, Monsieur Labeille, c'est que au Centre Bell, il y a personne qui était installé sur un tapis en train de faire la position du missionnaire ou les 92 positions du Kama Sutra. Là, tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui s'est fait la levrette en plein Centre Bell. Là.
Mais ça change quoi? Vous me parliez de l'article qu'il y a eu dans Le Devoir. L'article, ce qui termine comme ça, je ne me souviens plus quelle est la personne qui a donné cette réplique, là, mais qui est un professeur quelconque, et qui disait que effectivement, dans le cas bien précis de l'orage ou d'un club libertin, effectivement, on peut se poser des questions. Le virus, c'est pas une maladie qui est sexuellement transmissible. Alors, est-ce que 10 personnes qui sont à table en bas, qui discutent de très proche, dans le cas d'un club libertin, éventuellement, passent du temps à se frencher en bas, est-ce que ça va faire une différence arriver en haut? Aucune.
Ouais, mais la question est plus de savoir, est-ce que si je french quelqu'un en pleine pandémie, est-ce que c'est plus dangereux que d'aller prendre une bière avec un ami au Centre Bell?
Oui, c'est vrai. C'est vrai que la question se pose. La question se pose aussi, quelqu'un qui est doublement vacciné, qui montre son passeport à l'entrée et qui se retrouve avec 60 personnes qui sont doublement vaccinées et qui ont montré leur passeport, ben, la logique des choses, est-ce qu'il y a plus de chances d'attraper un virus en se frenchant qu'en buvant une bière? Si on y croit au vaccin, si on croit en nos mesures, ben, on ne devrait pas avoir peur de ça. Et si on devait avoir peur de ça, ben est-ce que c'est pas un petit risque qu'il faut prendre? N'importe qui peut faire une crise cardiaque au volant de sa voiture et ça ne nous empêche pas de nous promener à pied dans tous les carrefours.
Oui, et quelqu'un peut avoir une crise cardiaque en plein milieu de l'acte dans un club libertin aussi. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, vous nous dites, bon, ça prend le passeport vaccinal pour rentrer dans votre club échangiste. Est-ce qu'il y a une diminution? Est-ce que depuis que le passeport vaccinal est exigé, il y a moins de gens qui viennent chez vous? Ou est-ce que vous avez, c'est pareil comme avant, puis les gens ont tellement envie d'aller frencher des inconnus qu'ils sont prêts à aller se faire vacciner?
Ben, vous dire que c'est pareil comme avant, non, c'est pas pareil comme avant la pandémie. C'est pareil avant qu'il y ait l'imposition du passeport. Oui, il y a 4-5 personnes qui ont dit, ben, tu ne nous verras plus tant que tu demandes le passeport. Puis, on a 4-5 personnes qui ont décidé de venir parce qu'on demandait le passeport. Donc, ça a pas changé grand chose, d'autant plus que, on a vraiment l'impression que c'est uniquement une formalité. On doit continuer de fermer à 2 heures au lieu de 3. Ça, je vois vraiment pas ce qu'une heure de plus vient faire dans le programme. On doit absolument être assis. Moi, je pensais qu'on pouvait être debout avec le masque. Même pas. Quand les policiers sont venus, ils m'ont dit non, personnes debout. Alors, on ne doit pas avoir la musique trop forte, on ne doit pas danser, on ne doit pas... Et tout ça depuis qu'il y a malgré tout les vaccins et le passeport et tout. Alors, à un moment, il va falloir... il va falloir penser... On parle club libertin, mais ça enveloppe et ça comprend surtout tout ce qui est discothèque.
Oui.
Alors, les discothèques, il va falloir à un moment... Mais c'est pas... Je comprends, il y a le mot libertin derrière. Là, est-ce qu'il y a une grosse différence entre une discothèque et un club libertin? Oui, peut-être pour le deuxième étage, là où il y a les actes sexuels. Pour ce qui est de la partie discothèque, je pense qu'il y a autant de gens qui se frenchent dans une discothèque que dans un club libertin.
Oui, mais quand même, la différence est quand même majeure, là, tu sais. La dernière fois que je suis allée en discothèque, c'était il y a longtemps, mais je me rappelle pas qu'il y ait des matelas où il y avait des gens qui faisaient des petits
non,
bébés.
Hein?
On est d'accord.
Effectivement, pas pour les matelas. Mais
voilà.
On est quand même en 2021. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui est pas mal plus... et pas mal plus fringante que quand moi j'avais l'âge d'aller en discothèque, mettons.
Oui, c'est ça. Donc, de toute façon, peut-être qu'il n'y a pas des matelas, mais ils font des cric-crac-croc dans les toilettes ou à toutes sortes d'endroits. Donc, ils vont trouver toujours un moyen de passer à l'acte. Écoutez, ça a été très intéressant comme entrevue, puis je retiens surtout que ce double standard entre des gens au Centre Bell versus des gens dans un club où on danse, où on se french, en effet, pourquoi on est très, 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 très sévère dans un cas et très libertin, justement, dans l'autre. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Merci Jean-Paul Labeille, donc, qui est propriétaire du club libertin L'Orage à Montréal. Décidément, on aura tout su, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Dominique Plamondon à la mise en onde, à la réalisation. Merci aussi à Florence Lamoureux à la recherche. Et qui sait, peut-être que demain aussi, on va parler de se frencher dans un bar libertin. On le sait pas, il y a pas deux journées qui se ressemblent sur les ondes de Cube. On se retrouve demain.
Cube Radio.